europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Reskrucja Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Léa-Lisa Vesterov.
Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe consacré aujourd'hui à la liberté d'expression. Ce droit d'exprimer son opinion ou d'accéder à des informations sans être inquiété. Comment se porte-t-il en Europe? Dans son dernier classement, Reporters sans frontières lance l'alerte. Si l'Europe reste le meilleur élève des 5 continents, au sein de l'Union européenne aussi, les démocraties où la liberté de la presse est jugée bonne deviennent minoritaires, 8 seulement sur 27 pays membres. Et depuis l'invasion russe en Ukraine il y a 3 mois, cette question de l'accès à une information libre et indépendante se pose de nouveau de façon cruciale. Comment éviter la propagande tout en protégeant la liberté d'expression? Vivons-nous à l'ère de la guerre de l'information? Est-ce que le conflit en Ukraine limite l'accès à ces libertés fondamentales? S'informer et s'exprimer, c'est ce dont nous allons débattre avec nos deux invités. Nikos Smirneos, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Toulouse 3. Et avec nous en studio, Frédéric Charillon, professeur de sciences politiques et auteur d'un ouvrage qui vient de paraître chez Odile Jacob, « Guerre d'influence, les États à la conquête des esprits ». Bonjour à vous, bienvenue. Je le disais à l'instant, l'invasion de l'Ukraine lancée par le président russe Vladimir Poutine il y a 3 mois pose cette question de la liberté de s'exprimer et de s'informer de façon cruciale, car on le sait, en temps de guerre, l'information devient une arme. Et ça commence par le choix des mots. Opération spéciale pour la Russie et ses alliés, invasion et guerre pour le reste de l'Europe. Tout cela soulève des questions compliquées, bien sûr, dont nous allons parler. Du coup, j'ai envie de commencer par vous poser cette question fondamentale, Nikos Smirneos. Vous, dont l'information est la discipline universitaire, est-ce que le conflit en Ukraine complique l'accès à ces libertés fondamentales, s'informer et s'exprimer?
Je pense que comme tout conflit, comme toute guerre, ça pose toute une série de problèmes au niveau de la liberté d'expression. Mais je dirais que c'est un problème beaucoup plus large si on place ça dans le contexte historique récent. On a une séquence très problématique qui peut inclure au moins la crise de Covid, voire on peut la faire débuter à la crise financière de 2009 et un raidissement, on va dire, des structures politiques progressives.
Frédéric Charillon, votre dernier ouvrage décrypte les stratégies d'influence des États, nouvel outil géopolitique, dites-vous. La communication en fait partie. Est-ce que la guerre en Ukraine révèle au grand jour, finalement, la guerre de l'information qui se joue depuis un moment entre les puissances européennes, la Russie en tête?
Non, elle ne fait que le confirmer. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire mon collègue de Toulouse, c'est que c'est l'Ukraine, bien sûr, met la loupe sur ce sujet, mais ça fait longtemps. Alors, en fait, je pense qu'on peut même partir d'une problématique, on ne va pas faire de la philosophie ici, mais c'est presque une question de rapport à la vérité, qui a beaucoup évolué dans les dernières années. C'est-à-dire qu'on a eu une époque où dans les relations internationales ou en politique hein, généralement, le public était sensible à ceux qui disaient ou pas la vérité. On se souvient par exemple de l'affaire Clinton avec sa stagiaire, où ce qu'on a reproché au président des États-Unis, c'était d'avoir menti. Ensuite, on a changé complètement de paradigme, si je puis dire. Il y a eu l'époque Trump. Et on a beaucoup parlé à ce moment-là de post-vérité. Comme si, finalement, le rapport à la vérité n'avait plus aucune importance. Comme si des hommes politiques, des dirigeants, des leaders pouvaient raconter n'importe quoi, la seule chose qui importe étant l'effet immédiat sur le public, peu importe qu'ensuite on s'aperçoive que tout ça n'est absolument pas vrai, etc. Et là, j'ai le sentiment qu'on revient à une époque où la vérité compte. Et là, en Ukraine, on le voit très bien, c'est-à-dire que les chaînes russes ont été interdites, et les États-Unis surtout ont mis en œuvre une stratégie assez intéressante qui consiste à mettre sur la place publique des informations de leurs renseignements, des choses qui auraient été classées confidentielles autrefois, qu'on met sur la place public pour montrer aux opinions mondiales que nous disons la vérité. Ils vont attaquer, l'Ukraine va être envahie autour du 22 février, c'était finalement le 24. Le grand public, les opinions publiques internationales voient que c'était vrai. Et ensuite, on publie des listes de noms auxquels Moscou penserait pour remplacer le président Zelensky. Donc on est revenu sur un rapport à la vérité extrêmement important.
Alors, va en parler tout au long de l'émission, hein, à l'heure où la désinformation et les fake news sont dans notre quotidien, malgré tout, il est sans aucun doute encore plus difficile de s'informer correctement en temps de guerre qu'en temps de paix. Je vous propose un détour par l'Italie, où depuis le début de la guerre en Ukraine, le traitement de l'actualité par les médias italiens s'est imposé dans le débat public, depuis que des émissions télévisées ont laissé des soutiens de Vladimir Poutine avoir table ouverte dans des talk shows, créant la polémique. C'est l'œil européen de Franceline Beretti.
L'émission Zona Bianca appartient à Mediaset, l'empire de Berlusconi. Le 1er mai, elle a reçu le ministre russe des Affaires étrangères. Sergueï Lavrov a répété sa thèse sur la soi-disant nazification de l'Ukraine en démontant les arguments du président Zelensky.
Quand il dit qu'il ne peut pas y avoir de nazification parce qu'il est juif, mais si je me souviens bien, je pourrais me tromper, mais Hitler aussi avait des origines juives, donc ça ne veut rien dire. Depuis quelque temps, on entend le sage peuple juif nous dire que la majorité des antisémites sont justement les juifs.
Les propos du chef de la diplomatie russe sont habituels. Mais pourquoi le journaliste ne le recadre pas? Il considère que ça n'est pas son rôle. À la télé italienne, l'idée, c'est que pour l'équilibre, il faut un pour et un contre. Vous invitez un géophysicien sur le réchauffement climatique? Il faut un intervenant qui dit que c'est une invention. Ça fera de la contradiction et du buzz. Sur les plateaux télé en ce moment, on a donc souvent un pro-russe et un pro-ukrainien. Et ça commence à poser problème. Parce que les Italiens sentent bien que tout ça n'est pas qu'une question de point de vue, qu'il y a des faits. Le sociologue Alessandro Orsini, La Voix de Moscou, défend par exemple l'idée que pour saisir les enjeux actuels, il faut comprendre le début de la Seconde Guerre mondiale. Okay.
Elle n'a pas éclaté parce qu'à un moment, Hitler a décidé coûte que coûte d'attaquer la France, l'Angleterre, la Pologne. Ce qui s'est passé, c'est que certains pays ont créé des alliances militaires, dont une avec l'équivalent de l'article 5 de l'OTAN.
C'est cet article qui dit que si un membre de l'OTAN est attaqué, les autres doivent le défendre. Ensuite,
le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne et il se crée un effet domino dans lequel Hitler n'avait aucun intérêt et dont il ne s'attendait même pas à ce qu'il arrive.
Vous nous racontez tout ça pour faire un parallèle avec aujourd'hui?
Vous faites un parallèle avec aujourd'hui? Oui, oui, c'est la seule remarque que cette histoire révisionniste inspire aux journalistes. 1938, l'invasion de l'Autriche, des Sudètes, tout ça, niente. Le type est peut-être payé pour être le relais de la Russie, il y a d'autres cas connus. Il dit peut-être ça juste par bêtise. Le problème est qu'il est un invité régulier de nombreuses émissions. Tout le monde a le droit de s'exprimer, même de dire les pires horreurs. C'est pourquoi la sénatrice Daniela Santanche et son parti Fratelli d'Italia, parti néofasciste, s'opposent aux sanctions demandées par le Parti démocrate contre Mediaset.
La liberté de la presse et la liberté de parole sont des droits inaliénables en démocratie. Un droit que nous continuons à défendre avec force parce que nous devons laisser la liberté de parole à tout le monde, même à ceux qui pensent de façon que nous estimons injustifiable.
Donc la chaîne de Berlusconi ne sera pas sanctionnée, alors que Vladimir Poutine lui-même s'est excusé auprès d'Israël après les affabulations de son ministre. En Italie, l'interview en scandalise beaucoup, mais les stars journalistiques du petit écran la défendent. Enrico Mentana, le marathonman des soirées électorales, salue un scoop que beaucoup auraient voulu faire. Le directeur de l'information de Mediaset, lui, affirme même avoir produit un document historique. Et puis il y a Mario Draghi, le sage président du Conseil. Draghi a critiqué le côté peu professionnel de cette tribune donnée à Lavrov, sans contradicteur. Mais en Italie, il y a la liberté d'expression, conclut-il. Une liberté tellement usée qu'on ne sait plus quelle valeur elle est censée servir.
Frédéric Charion, je me tourne vers vous. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a une plus grande transparence des données brutes qui sont rendues publiques, mais on le voit avec ce reportage. Est-ce que la liberté d'expression doit être inconditionnelle, comme le suggère dans ce reportage cette sénatrice italienne? Est-ce qu'on doit pouvoir tout dire?
Non, mais c'est une contradiction qu'on connaît depuis longtemps. C'est-à-dire que la liberté d'expression, elle doit être assurée, mais elle est encadrée. Alors tout ça pose la question de l'extrême responsabilité des journalistes. Je pense que les journalistes, c'est pas pour rien qu'on appelle ça le cinquième pouvoir, c'est qu'ils doivent avoir un rôle important dans la défense de la démocratie libérale. Ils doivent à la fois défendre la liberté d'expression et ils ne peuvent pas se contenter justement d'être des personnes qui invitent n'importe qui d'autre sans avoir de rôle personnel à jouer. Il y a une profession qui s'appelle journaliste et il y a une éthique derrière. Nous sommes là pour garantir la liberté d'expression, mais cette liberté d'expression, elle est encadrée. Alors là, dans ce cas précis, dans le cas italien, qui est très intéressant, il y a deux choses qui sont importantes. D'abord, effectivement, les gens qui sont invités sur les plateaux pour défendre un point de vue, y compris le point de vue d'une puissance étrangère, sont-ils rémunérés ? Sommes-nous dans le cadre de ce que justement j'ai appelé dans l'ouvrage que vous avez eu la gentillesse de citer, une guerre d'influence ? Est-ce que ce sont des gens qui ont une analyse personnelle ou est-ce qu'ils sont liés à une puissance étrangère, voire rémunérés ? Si c'est le cas, il faut que le public le sache. Et puis, il y a un deuxième encadrement important, évidemment, c'est quand même, il y a quand même des règles sur l'apologie du révisionnisme, ou l'incitation à la haine, ou l'antisémitisme, ou plein d'autres choses encore. Et là, effectivement, à partir du moment où on tombe potentiellement là-dedans, il faut réglementer. Et si les règlements existent, il faut les appliquer.
Nikos Smirnaios, vous qui êtes spécialiste des réseaux sociaux, est-ce que c'est aussi simple que ça ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Frédéric Charillon sur gérer la nécessité de débattre tout en encadrant des propos quelquefois négationnistes ou révisionnistes, comme on vient de l'entendre ?
Alors ça, c'est un exemple très extrême, évidemment, qui va mettre tout le monde d'accord. Mais je pense que ce n'est pas aussi facile que ça d'exercer ce qu'on appelle l'autonomie journalistique, c'est-à-dire de laisser les journalistes faire son travail en toute objectivité, en bonne foi. Pourquoi ? Parce que les journalismes et les médias en général sont toujours sujets à des influences, à des tentatives d'influence par le pouvoir politique et par le pouvoir économique. Et le reportage que vous avez fait passer, il est très éclairant à ce sujet, puisqu'on voit que derrière le fait de laisser dire n'importe quoi ou d'avoir des propos de ce type, en fait, se cachent aussi des logiques économiques, des logiques d'audience, notamment la télévision italienne de Berlusconi qui recherche dans une logique de compétition à maximiser l'audience. Donc vous avez d'un côté l'effet de choc de ce type de propos et vous avez d'un autre côté aussi le fait que dans les sociétés européennes aujourd'hui, tout le monde n'est pas unanime par rapport à la position à tenir dans cette affaire face à la Russie, etc. Donc il y a un marché à prendre, si vous voulez, des gens qui sont plutôt pro-russes, qui ne sont pas sur la même ligne que la ligne officielle des gouvernements européens. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est que est-ce que ça fait partie justement du débat démocratique ? Est-ce qu'on a le droit, évidemment, de ne pas tenir des propos négationnistes, mais est-ce qu'on a le droit de tenir des propos qui vont à l'encontre d'un certain consensus sur cette affaire et sur d'autres affaires ? C'est là où la balance est difficile à faire et c'est là où des cas des censures, des contrôles des médias peuvent poser un problème démocratique.
La question d'autoriser, d'encadrer ou de stopper la propagande s'est posée de façon très concrète à l'Europe dès le début de l'invasion russe en Ukraine. Le 2 mars dernier, la Commission européenne a décidé d'interdire la diffusion en Europe de RT, anciennement Russia Today, et de l'agence Sputnik, deux médias entièrement financés par l'État russe dans le cadre des sanctions prises à l'encontre de Moscou. RT et Sputnik sont les canaux des actions de propagande et de désinformation des faits de la Russie qui menacent directement et gravement l'ordre et la sécurité publique de l'Union et qui jouent un rôle essentiel et déterminant pour faire avancer et soutenir l'agression contre l'Ukraine et pour déstabiliser les pays voisins. Je cite la justification des 27 pays de l'UE dans leur décision publiée au journal officiel de l'Union européenne. Frédéric Charillon, en tant que professeur de sciences politiques, que pensez-vous de cette décision inédite. Il faut être capable de dire stop quand tout est malhonnête.
Oui, je crois. Mais parce qu'il y a un principe, alors là, on passe plutôt à la dimension relation internationale que véritablement sociologie des médias ou droit des médias, c'est qu'il y a aussi la question de la réciprocité. C'est-à-dire qu'on a un gros problème. On a des médias qui sont ouvertement des organes qui émanent d'autres pays, qui sont financés par ces autres pays, qui ont le droit d'exprimer leur point de vue dans nos sociétés, tandis que les pays concernés, eux, ne nous donnent pas cette réciprocité, ne n'accordent pas aux médias occidentaux la possibilité d'être sur place ou d'y développer des chaînes. Donc là, ne serait-ce que sur le plan du principe de réciprocité, je crois que la décision est... Alors évidemment, c'est un peu dommage de faire ça dans la précipitation sur un cas qui est la guerre, on arrête tout.
Comment ça ? Parce que les médias libres sont coupés en Russie, on coupe RT, c'est ça que vous voulez dire ?
On n'aura pas l'occasion d'avoir l'équivalent de Russia Today en Russie, tout le monde le sait bien. Et donc là, il y a une absence de réciprocité qui pose problème. Moi, je suis évidemment favorable à la libre expression, mais quand il y a des chaînes étrangères qui s'installent dans les sociétés ouvertes en sachant que nous ne pouvons pas, nous, communiquer nos messages à ces sociétés qui sont, elles, des sociétés fermées, on est forcément, on a une main liée dans le dos, on se bat avec une main liée dans le dos. Et donc, je suis assez surpris qu'on ait réussi à le faire, qu'on ait pu le faire. Je pensais pas, et je pense d'ailleurs que Moscou ne s'attendait pas non plus à ce qu'on puisse fermer ces chaînes. Alors, sans doute, sur le plan juridique, là, l'affaire n'est pas finie. Je pense qu'il va y avoir des recours et des choses comme ça. Après, il faut bien comprendre que ça n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Vous avez d'autres chaînes, d'autres médias dont nous savons qu'ils sont liés à d'autres pays qui ont des reportages absolument terribles, accusateurs en permanence contre nos sociétés.
Bon, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, oui.
Pas seulement les réseaux sociaux. Voilà, il y a des pays, des chaînes de télévision aussi. Donc là, la question de la réciprocité, à mon avis, doit être soulevée. Elle doit être soulevée avec tout le monde. C'est pareil pour la chaîne chinoise. C'est pareil pour les chaînes qatari. C'est pareil pour d'autres. À un moment, il faut discuter avec ces pays en disant, écoutez, il faut quand même que nous aussi, nous puissions communiquer nos messages auprès de vos opinions. Voilà. Et ça, là, évidemment, c'était exacerbé par la guerre, ça s'est fait dans la précipitation, il va forcément y avoir un débat juridique, mais ça pose un vrai problème de fond, qui est l'accès réciproque à la libre information.
Nikos Myrnaios, quel est votre avis? C'était un geste politique nécessaire ou une enfreinte à la liberté d'expression?
Alors, si vous me permettez, d'abord, je tiens à dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse de mon collègue. Je ne comprends pas très bien cette question de la réciprocité. Il existe bien RFI en russe, il existe bien Voice of America, Deutsche Welle, qui sont accessibles aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on parle, en Russie, via Internet notamment.
Ah, via Internet, donc, oui, mais pas...
Bien sûr, oui, les chaînes RT et Sputnik, enfin les médias RT et Sputnik n'étaient accessibles que... par Internet dans la plupart des pays européens, puisqu'il n'y a pas des versions dédiées comme en France. Donc, à l'heure actuelle, on ne parle pas de l'exemple de la Chine, qui est un exemple complètement différent, où là, effectivement, il y a un sous-Internet qui est absolument contrôlé avec une censure beaucoup plus sophistiquée. Mais dans le cas de la Russie, il y a un avantage communicationnel considérable des pays occidentaux qui détiennent des plateformes numériques principales, qui détiennent une myriade de médias qui ne se privent pas de diffuser leur point de vue officiel vers la Russie. Donc je pense que cette réciprocité existe. D'autre part, je comprends en termes stratégiques une logique de ce type, mais ça veut dire que, de certaine manière, si on acte ce principe-là qui a été évoqué, finalement, ça aligne sur des standards totalitaires, puisqu'on fait comme un pays qu'on considère totalitaire. Donc, moi, je ne suis évidemment pas pour défendre la propagande russe et sa défense de l'invasion en Ukraine, mais je pense que cette décision de l'Union européenne pose toute une série de problèmes de nature à la fois réglementaire, démocratique. Il faut savoir que quand vous lisez la décision du Conseil de l'Union européenne, évidemment, il est fait référence à la propagande qui légitime une agression militaire. Et ça, dans le droit international, effectivement, on peut l'utiliser comme un argument justifiant de ce type de décision. Mais dans la même décision, il est dit, la propagande a notamment pris pour cible, de manière répétée et constante, les partis politiques européens, en particulier en période électorale. C'est-à-dire, ce qu'on reproche, en fait, aux chaînes russes, c'est d'avoir critiqué la politique européenne. Or, ce type de propos-là est tout à fait un propos politique qui doit être protégé par la liberté d'expression. Il y a des recherches qui ont été faites en France, de nombreuses recherches, qui ont trouvé, par exemple, qu'une grosse partie du mouvement des Gilets jaunes, y compris des gens qui sont à gauche, ont beaucoup consommé RT et Sputnik à un moment donné de leur mouvement parce qu'ils considéraient que les médias français avaient un point de vue biaisé. Donc, si vous voulez, cette interdiction-là, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle cette interdiction a été critiquée par l'Union de journalistes européens, et que même des juristes très pro-européens, aujourd'hui, n'ont pas tout à fait toutes les réponses sur la justification légale de cette décision. Bon, tout ça, ça va être effectivement jugé par la Cour européenne de justice, mais je pense que la question est beaucoup plus complexe est beaucoup plus ambigu que ce qu'on peut penser à première vue.
Une décision qui ne fait pas consensus, on le voit bien, hein, à peine 15 jours après l'annonce des Européens d'interdire la diffusion de RT en Europe. À des milliers de kilomètres de là, le Mali, mais dont la junte militaire au pouvoir est soutenue par des mercenaires russes, Bamako, donc, annonçait la suspension de la diffusion de RFI et de France 24 au Mali. Sur le continent africain, de nombreuses voix ont alors fait un lien entre ces deux décisions. J'ai demandé à Noël Yao, à la tête de l'Union des journalistes de la presse libre africaine, un groupe de défense des droits des médias, de revenir sur le contexte politique dans lequel avait été prise cette décision de suspendre RFI et s'il y avait un lien à faire entre la coupure de RT en Europe et de RFI en Afrique.
la liberté de la presse tire son essence et son émanation des sociétés démocratiques, de l'état de droit, des sociétés ouvertes. Et donc, dans un contexte de coup d'État militaire, de putsch militaire, il va sans dire qu'il y a des incidences pas toujours très heureuses. La liberté, de façon générale, et la liberté de la presse connaît un recul dans des pays où il y a eu des putschs.
Donc au Mali, au Burkina Faso, en Guinée.
Bon, vous l'avez dit vous-même, ces pays où il y a eu des interventions militaires sur la scène, on a assisté à des situations pas toujours très, très, très heureuses pour la liberté de la presse.
Sur les réseaux sociaux, certains ont fait un parallèle entre la fermeture de RT Russia Today en Europe et la fermeture de RFI au Mali. Qu'est-ce que vous pensez de ce parallèle? Vous le comprenez?
Oui, c'est un débat que nous connaissons à l'UJPLA. Nous avons pris position sur l'affaire RFI à France 24 au Mali. Eh bien, il y a eu certaines voix qui sont élevées contre notre position. Mais l'UJPLA dit deux choses. La première, c'est que l'Union des journalistes de la presse libre africaine, UJPLA, doit bien porter son nom. Son terrain de prédilection, c'est le continent africain. Le Mali étant sur le continent africain, nous avons réagi et nous avons dit que nous n'étions pas d'accord avec cette fermeture. La deuxième chose, c'est que nous sommes des professionnels à l'UJPLA, nous connaissons les organes de presse d'ici et d'ailleurs, nous n'entendons pas faire la leçon à RT ou à d'autres médias du genre, mais nous savons que certains organes ne sont que des officines du ministère de la Défense de certains pays. Et donc, nous ne mettons pas RFI, France 24, qui ont un professionnalisme avéré et reconnu, nous ne mettons pas tous dans le même sac que RT et bien d'autres.
Et pourquoi, selon vous, certains font le parallèle entre les deux?
Mais c'est un amalgame de mauvais goût.
Un amalgame de mauvais goût, nous dit ce journaliste. D'autres journalistes africains que j'ai eus en ligne voient une atteinte à la liberté d'expression quasi équivalente dans la décision de couper RFI et Russia Today. Bien sûr, RFI et RT Média ne sont pas à mettre sur le même plan. On a d'un côté un média public avec une pluralité de voix et de l'autre côté un média d'État qui sert donc directement les intérêts d'un État. Mais sur le principe de suspendre, Nikos Myrneos, vous aviez commencé à le dire, c'est un débat qu'il y a eu aussi en Europe ou qui devrait y avoir en Europe?
Ce débat il existe aujourd'hui. On voit bien les conséquences de la décision européenne. Évidemment, moi, je ne me parle non plus tous ces médias-là au même niveau. Mais la question, c'est jusqu'où on peut aller dans la censure? Parce qu'en fait, il s'agit bien de censure. À partir du moment où l'Union européenne décide d'appliquer une censure de ce type, ça légitime une réponse en face. Ça ne veut pas dire que la réponse en face, que ce soit la Russie, le Mali ou d'autres pays, n'allait pas venir toute seule, mais il y a quand même une légitimation. Et les effets sont assez catastrophiques. On a vu les décisions qui ont suivi la décision de l'Union européenne en Russie. Ça a été de suspendre, par exemple, la plupart des plateformes numériques américaines, en tout cas là où se passent les débats, et la création des plateformes russes propres. Et en fait, les résultats de tout ça, c'est que progressivement, on a une séparation, une étanchéité qui s'impose entre les sphères publiques européennes et russes. Et ceci, à mon sens, ne peut que favoriser une rigidité, on va dire, dans les échanges, des arguments, dans les échanges de points de vue. Et du coup, ça ne peut que rendre beaucoup plus compliqué une sortie de cette crise. Évidemment, une sortie de la crise, une sortie de la guerre implique des compromis. Ce n'est pas une question uniquement morale ou éthique sur ce qu'on pense être bon ou être mauvais. Et je pense que les citoyens européens, par exemple, dans tous les pays d'Europe, doivent aussi avoir accès à des arguments qui sont contraires à la position officielle de leur pays. Ce qui est le cas en Europe, évidemment, ce qui est le cas. Mais ce type de décision très centralisée, très forte, ouvre la boîte de Pandore, si vous voulez, à l'échelle internationale et peut avoir des répercussions qu'on n'avait pas prévues au départ, comme les réactions qu'on a eues au Mali et en Russie.
Et en même temps, on le sait, ce média est un outil d'influence à minima, de désinformation. Mais c'est vrai qu'en France, l'autorité française de régulation des médias, ARCOM, n'avait pas trouvé de raison de suspendre RT. Elle avait signalé seulement suivre de près la couverture de la guerre par RT en France. Qu'en pensez-vous, Frédéric Charrier, sur ce débat?
De toute façon, on est dans un moment où tout le monde voit bien que l'accès à l'information, d'abord, est de plus en plus diversifié. Il y a les médias, on va qualifiés de traditionnels, hein, qui sont les journaux, la télévision, les radios, etc. Il y a les réseaux sociaux, il y a maintenant des boucles, WhatsApp,
oui, ça.
Donc de toute façon, ça fait un moment que nous savons qu'il y a un problème à régler et qu'on
est sur ce point précis.
Mais je pense que, si vous voulez, d'abord, l'interviewé en Afrique que vous avez tout à l'heure a presque dit l'essentiel en disant on ne met pas tout le monde sur le même plan. Bon. Et les situations politiques ne sont pas non plus sur le même plan. C'est pour ça que là, je reviens, mais c'est directement lié à votre dernière question, à ce que disait mon collègue tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, non, je ne pense pas qu'il y ait une réciprocité avec la Russie. Avec la Chine, on sait bien qu'il n'y en a pas, oui. mais avec la Russie non plus. Ça fait quand même plusieurs années qu'il y a une pression croissante sur les ONG, sur différentes instances qui sont obligées de se déclarer agents de l'étranger. Et on voit bien comment les think tanks, les Carnegie et autres ont vu dans ce pays leur travail de plus en plus difficile. Donc, je crois...
Mais là, vous ne mettrez pas d'accord. Les médias existent, ils sont sous pression, leur accès est limité, plus qu'en France, évidemment.
Mais bien sûr, c'est en tout cas, enfin, quand on va en Russie, je ne suis pas allé, évidemment, depuis que cette guerre a éclaté, mais ça fait longtemps qu'on le voit et qu'on le sent. Donc, il y a un problème à régler. Alors, bien sûr, là où on est d'accord, c'est de dire une décision unilatérale de l'État ne peut pas régler tout le problème. Il faut une concertation, il faut que différents acteurs soient dans ce processus, y compris, et d'abord, les médias et les journalistes eux-mêmes. Mais on a bien vu qu'il y avait un problème. Et d'ailleurs, ce problème...
Mais l'Europe devait dire stop ?
Ah, moi, je pense qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Je pense qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Et après, ça ne veut pas dire que le point de vue opposé n'existe pas. Je veux dire, on entend beaucoup de gens qui soutiennent la Russie. Il y a même des candidats à l'élection présidentielle qui soutiennent le point de vue russe. Donc ça prouve bien que, si vous voulez, que cette liberté-là, elle n'est pas menacée. La question, on le disait tout à l'heure, c'est quand un média s'exprime ou quand quelqu'un s'exprime, est-ce qu'il s'agit d'une analyse libre ou est-ce qu'il s'agit d'une analyse télécommandée de l'extérieur ?
Carrefour de l'Europe, Léa-Lisa Vesterhoff.
Carrefour de l'Europe se penche aujourd'hui sur la liberté d'expression en Europe. Cette valeur est-elle malmenée depuis le début de la guerre en Ukraine ? Comment éviter la propagande ou plutôt la désinformation tout en protégeant la liberté d'expression ? Pour en parler avec nous, Frédéric Charrillon, professeur de sciences politiques et auteur d'un ouvrage qui vient de paraître chez Odile Jacob, « Guerre d'influence, les États à la conquête des esprits » et Nikos Smirneos, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Toulouse 3. Toujours sur la question de ce qu'on est autorisé à dire ou non en Russie. Impossible de parler de la guerre en Ukraine sans risquer des peines de prison, car depuis l'invasion russe fin février, Moscou a adopté de nouvelles lois qui condamnent à de lourdes peines tous ceux qui publient ce que le Kremlin considère comme de fausses informations. Dans ce contexte, presque toutes les voies indépendantes ont fui et les Pays-Baltes sont de nouveau le refuge de nombreux journalistes russes, comme après l'annexion de la Crimée en 2014 d'ailleurs. Notre correspondante Marielle Vituro en a rencontré quelques-uns à Riga.
Novaya Gazeta, le journal moscovite qui a suspendu sa publication fin mars en Russie, s'est installé en avril à Riga dans les locaux d'un magazine local juste à côté de Milda, la statue de la liberté lettonne. Quelques jours avant le 9 mai, date symbolique en Russie qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale, Kirill Martinov, le rédacteur en chef, a publié le premier numéro de son journal en exil.
Oui, c'est notre numéro zéro, mais nous ne prévoyons pas de publication quotidienne ou hebdomadaire. Nous voulions juste montrer à la société russe et aux autorités que nous sommes toujours vivants. C'est un numéro fortement anti-guerre.
Les premières lignes de l'éditorial commencent d'ailleurs ainsi. « Disons la vérité ». En réalité, pour atteindre son lectorat en Russie, l'équipe de journalistes mise surtout sur le net ou sur les chaînes Telegram, un réseau encore non interdit en Russie. Dans la tradition d'un journalisme militant, Kirill Martinov s'est installé à Riga avec une intention précise.
Mon but stratégique est de devenir la voix des Russes pro-européens des deux côtés de la frontière. La deuxième chose que je voudrais serait d'essayer de recréer une Russie extraterritoriale qui serait comme une partie de la communauté européenne. Je sais que des millions de personnes parlant russe soutiennent l'Ukraine et l'Union européenne dans cette guerre.
Novaya Gazeta fait partie des rares publications qui a encore une équipe de journalistes en Russie, mais le rédacteur en chef confirme la situation est très compliquée pour eux, Kirill Martinov.
Jour après jour, cela devient de plus en plus difficile de se reposer sur ce réseau de reporters. Les gens ne peuvent plus se présenter comme journalistes, ils deviennent des sortes d'agents. Ils ne peuvent plus obtenir d'accréditation, de statut légal. Parfois, ils restent anonymes. Dans certains cas, on ne peut pas leur verser leur salaire.
En Estonie comme en Lettonie vivent d'importantes communautés russophones. Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie, l'offre en russe pour les populations locales s'est un peu étoffée pour combattre la propagande. Ilya Kozin, c'est reporter à la télévision publique lettonne. Il a longtemps travaillé en russe avant de passer au letton, mais il voudrait voir plus de synergie pour un meilleur traitement de l'information en russe dans les médias locaux.
J'espère vraiment que ces nouveaux médias qui s'installent maintenant en Lettonie vont aider à éclairer l'opinion et à former un consensus national. Mais ces espoirs sont ténus. L'un des meilleurs exemples est le site en ligne Medusa. Ils ne sont pas vraiment intéressés par ce qui se passe en Lettonie.
De plus en plus de journalistes et de médias russes comme la télévision Dojd ou la rédaction du magazine Holod arrivent en Lettonie avec l'espoir de continuer à faire parler des voix pro-occidentales. Mais leurs aspirations à la liberté pourraient rapidement se briser sur la question des ressources pour faire vivre leurs publications. L'espoir, c'est que l'Union européenne mette la main au portefeuille pour soutenir cette pluralité des médias et la liberté d'expression.
Alors, on vient de l'entendre, il y a un enjeu à ce que ce point de vue russe pro-occidental soit entendu. Ces journalistes russes attendent un soutien financier de l'Europe. Quel rôle doit jouer l'Union européenne dans ce débat des médias et cette guerre de l'information, selon vous, Frédéric?
La difficulté, effectivement, pour les pays démocratiques libéraux, c'est d'essayer de contrer cette tendance à la restriction de la liberté d'expression, parce qu'on voit bien, tout le monde sait que malheureusement la liberté de la presse, la liberté d'expression recule dans le monde. Ça, c'est un constat général. Mmh. Il y a eu, je crois, il y a quelques semaines, un numéro de The Economist avec un papier là-dessus qui montrait très bien avec une carte le recul extrêmement préoccupant partout, y compris dans les pays occidentaux, de la liberté de la presse. On sait que les journalistes sont harcelés partout. On sait que d'ailleurs les pressions sur la liberté d'expression, elles ne viennent pas que des États. Elles viennent parfois du politiquement correct, elles viennent de groupes qui essayent de refuser, d'empêcher des facs ou d'autres d'inviter
des gens. Et que doit faire l'Europe ?
Donc on est, et en Europe aussi, on a des gens qui sont déprogrammés parce qu'il y a des contestations de l'invitation de telle ou telle personne. C'est un climat d'ensemble qui est extrêmement inquiétant. Alors après, il y a un problème plus particulier qui est que nous avons affaire à des régimes politiques qui harcèlent les journalistes, restreignent politiquement par une décision centrale la liberté de la presse. Qu'est-ce que les démocraties libérales peuvent opposer à ça? Il n'est pas dans notre ADN de faire de la contre-influence en adoptant les mêmes méthodes. Ça, c'est sûr. Alors, d'abord, évidemment, je pense qu'on doit pouvoir recueillir les journalistes qui sont persécutés ou qui sont virés partout dans le monde. Pas seulement en Russie. Je crois que c'est d'ailleurs une richesse extraordinaire pour des
L'Europe
pays...
L'Europe doit pouvoir le faire.
L'Europe doit pouvoir accueillir ces gens. D'une manière générale, d'ailleurs, je crois que... Je crois qu'il faut aider tous les gens qui n'ont plus accès à la liberté d'expression. C'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles je pense qu'il peut être une erreur d'interdire ou de sanctionner des sportifs ou des artistes, comme on l'a vu pour la Russie. Après tout, je veux dire, ils sont pour rien. Les journalistes, en revanche, ceux qui ne peuvent pas exercer leur métier et qui souhaitent venir en Europe, je pense qu'on doit pouvoir les aider, oui.
Nikos Myrneos, le conflit en Ukraine dure. Vous le disiez tout à l'heure, un jour, il faudra sortir de ce conflit et aussi pacifier de ce fait-là les points de vue entre les deux parties. Est-ce qu'il y a un danger pour l'Europe à soutenir exclusivement le point de vue pro-occidental ?
Alors oui, d'abord parce que moi je suis un petit peu gêné par le discours de mon collègue sur deux points, si je peux me permettre. Le premier, c'est qu'il a fait quand même référence rapidement à ce qu'on appelle la cancel culture, puisqu'il a mis au même niveau un certain nombre de mobilisations sociales qui visent à empêcher des discours réactionnaires s'éteignir dans le campus ou dans l'espace public, avec la censure politique venant du haut, du pouvoir, de l'État, etc. Il ne s'agit pas du tout de la même chose. Pour moi, il est beaucoup plus dangereux de laisser, par exemple, les discours réactionnaires se répandre dans les médias dominants ou qui ont des millions d'auditeurs et de téléspectateurs dans le monde.
Les médias traditionnels.
Voilà, par exemple, des chaînes d'information continue qui ont été ou des médias écrits qui ont été condamnés à plusieurs fois pour des faits de racisme et des discours de haine, que de mettre ça au même niveau avec un certain nombre de manifestations, des protestations d'étudiants ou sur des campus. Donc ça, je pense que déjà, c'est un argument un petit peu fallacieux. Dans un deuxième temps, je suis un peu gêné aussi par la position... Bon, là, on est sur RFI, ça tombe très bien. Je suis un petit peu gêné par la position un petit peu des donneurs de leçons des Européens. On est d'accord qu'il y a un certain nombre de principes de démocratie libérale qu'il faut défendre. Mais il faut les défendre partout, y compris en Europe. Aujourd'hui, en Europe, on a quelqu'un par exemple comme Julian Assange, qui est en prison depuis plusieurs années, qui est un défenseur de la liberté d'expression. On a M. Snowden qui ne peut plus rentrer dans son pays parce qu'il a dénoncé des scandales, des surveillances aux États-Unis. Aujourd'hui, quand vous regardez le classement des Reporters sans frontières, vous avez de nombreux pays appartenant à l'Union européenne qui se trouvent dans des positions inférieures comparées à des pays asiatiques, africains, etc. Donc, on ne peut pas dire que l'Europe, dans tous ses composantes, est un exemple absolu de liberté d'expression.
Il y a deux poids deux mesures.
Voilà, il faut être un petit peu plus nuancé. Les pays européens sont des pays puissants, ont leurs intérêts économiques, ont leurs intérêts stratégiques. Ils n'hésitent pas à les défendre en faisant de la propagande comme tous les autres pays. Alors, ça ne veut pas dire évidemment que l'état de l'espace public européen est le même que celui de la Russie ou de la Chine,
oui, voilà.
Loin de là. Évidemment, mais il faut aussi raison garder et savoir aussi avoir gardé un regard critique sur nos propres pratiques au sein de l'Union européenne. Et pour revenir à la question initiale que vous avez posée, il faut savoir sauvegarder un espace de débats contradictoires qui ne soit pas uniquement basé sur l'émotion ou sur la morale. Parce que la politique n'est ni de l'émotion ni de la morale. La politique, ce sont des compromis pour sortir des crises. Et évidemment, aujourd'hui, par exemple, je suis en train de regarder les baromètres de l'Union européenne autour de la question de l'Ukraine. En fait, on se rend compte que les populations des pays européens sont très divisées sur les mesures à tenir. Vous avez, par exemple, des hommes politiques, des chefs d'État qui soutiennent mordicus des mesures pour couper la dépendance énergétique de l'Union européenne envers la Russie. Or, quand on regarde la population européenne n'est pas du tout sur la même ligne dans son ensemble, puisque les personnes doivent vivre au quotidien avec la hausse des prix, l'inflation de l'énergie, etc. Donc, les questions sont beaucoup plus complexes que de dire d'un côté il y a un méchant, de l'autre côté il y a un gentil, et il faut que les débats médiatiques reflètent cette réalité de tout point de vue, afin que les citoyens puissent se faire un avis correctement informé.
Carrefour de l'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Se faire un avis correctement informé, c'est tout l'enjeu de cette émission. On en parlait à l'instant, il y a la guerre en Ukraine, mais on l'a dit aussi, depuis la pandémie de Covid-19, il y a en Europe un contexte global de durcissement des positions, durcissement des gouvernements vis-à-vis de la liberté d'informer, mais durcissement aussi des points de vue, avec une crise de crédibilité pour les médias traditionnels et une banalisation des canaux de désinformation. Reporters sans frontières a publié début mai son classement sur la liberté de la presse dans le monde. L'Europe a les meilleurs élèves, hein, la Norvège, le Danemark, la Suède, pour ne citer que cela. Mais il y a aussi de plus en plus de cas préoccupants. Malte est 78e, mais par exemple, il y a aussi la Grèce, où la situation est préoccupante. En chute constante ces dernières années dans le classement des pays en matière de liberté de la presse, la Grèce se situe cette année à la dernière place sur la liste des pays de l'UE en matière de liberté de la presse, derrière des pays comme la Bulgarie ou la Hongrie, connus pour leur autoritarisme avec des médias sous la surveillance étroite du pouvoir politique. Fabien Perrier, vous êtes correspondant en Grèce pour plusieurs médias internationaux. Comment s'explique cette dégringolade ?
Le premier tournant a lieu en juillet 2019 quand le parti de droite conservatrice Nouvelle Démocratie arrive au pouvoir. La première loi qu'il fait voter consiste à faire passer l'agence de presse nationale et les radios et télévisions publiques sous le contrôle direct du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. Le Parlement vote une loi sur le, je cite, « délit de diffusion de fausses informations désormais passible de 5 ans d'emprisonnement ». En fait, cet arsenal juridique ouvre la voie à une restriction disproportionnée de la liberté de la presse. Et ses effets se font déjà sentir. Deux journalistes, Kostas Vaksevanis et Yona Papadakou, le savent bien. Ils ont enquêté sur l'affaire Novartis, une affaire de surfacturation des produits Novartis en Grèce, dans laquelle des responsables politiques sont suspectés d'avoir touché des pots de vin. Eh bien, ces deux journalistes qui ont révélé cette histoire sont poursuivis pour participation à une organisation criminelle et participation à un complot suite donc à ces révélations. Ces délits sont passibles de 20 ans d'emprisonnement. Et même au sein de la majorité, certains s'inquiètent. J'ai rencontré un député européen, Yorgos Kirtsos. Il a été exclu de Nouvelle Démocratie pour avoir critiqué le positionnement gouvernemental dans l'affaire Novartis. Que dit-il ? Mon cas personnel prouve que le gouvernement essaie de contrôler les médias jusqu'à la parole de ses parlementaires. C'est de pire en pire. Et autre sujet d'inquiétude, la lenteur avec laquelle certaines enquêtes judiciaires sont menées. Un exemple, en avril 2021, le journaliste Yorgos Karaevas a été abattu alors qu'il enquêtait sur la corruption chez les hauts responsables de police, ainsi que sur le cas d'un directeur de théâtre, Dimitris Lignadis, accusé de viol sur mineurs. Or, ce directeur serait proche, lui aussi, des milieux du pouvoir.
Si je comprends bien, il y a visiblement des sujets qui valent directement des représailles aux journalistes, les enquêtes sur le secteur privé, mais aussi celles sur les migrants.
C'est ça. D'ailleurs, il y a quelques mois, en mars, un consortium d'associations et de syndicats publiait un rapport dénonçant, je cite, « un climat pesant pour le journalisme indépendant en Grèce, une situation alarmante, des pressions, voire des menaces contre les journalistes ». Et les thèmes que pointait ce rapport sont exactement ceux que vous venez de citer. Bref, un autre exemple, le téléphone d'un journaliste spécialisé sur les questions migratoires, Stavros Malifudis, a été espionné comme l'a révélé la presse. Et aujourd'hui, même des correspondants étrangers sont attaqués. C'est le cas d'Ingeborg Beugel, une journaliste néerlandaise qui avait posé une question dérangeante sur les refoulements illégaux en mer au Premier ministre grec. Celui-ci était sorti de ses gonds. Et depuis, elle a essuyé des attaques sur les réseaux sociaux et même des jets de cailloux dans la rue. Aujourd'hui, elle est en procès pour avoir aidé un migrant. Ce procès se tiendra le 1er juin et je peux vous assurer que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle, elle n'est pas rassurée.
Nikos Myrnaios, le déclin de la liberté de la presse en Grèce fait l'objet d'une surveillance de la part de l'Union européenne. Mais est-ce que les pressions et les violences exercées contre les journalistes dans ce pays ne sont pas l'apanage seulement de la Grèce ? Le cas de la Grèce, ça révèle une banalisation de ce genre de situation en Europe ?
Oui, je pense que la Grèce, c'est un condensé extrême, mais des tendances qu'on trouve un petit peu partout, y compris en France. Alors évidemment, pas à la même échelle et pas au même niveau, mais on trouve des choses similaires. Un des problèmes qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les lois du gouvernement contre les supposées fake news, mais qui ont une visée quand même de contrôle politique, on l'a retrouvé en France, puisque en France, depuis 4 ans, il y a eu 3 tentatives de loi contre ce qu'on appelle communément les fake news, donc la loi Avia, la loi contre les séparatismes, la loi contre les fake news. Et on a bien vu que ces lois ne servent à rien, si ce n'est porter une menace vers un certain nombre d'investigations journalistiques ou des discours qui ne rentrent pas dans le mainstream, puisque la loi contre les fake news qui était censée encadrer la période préélectorale n'a pas du tout été utilisée par les juges en France, parce que évidemment c'était une loi impossible à appliquer. De la même façon, on a un phénomène en Grèce qui est très récurrent, ce sont les procès, les plaintes d'hommes d'affaires puissants, pour faire taire les critiques journalistiques. Eh bien, on a en France M. Bolloré qui, par exemple, qui ne se prive pas de porter plainte contre des journalistes et des médias dans le but de les fermer. On a en Grèce aussi la question de la violence contre des journalistes, mais ça, c'est une question aussi qu'on a retrouvée en France pendant notamment les mouvements des Gilets jaunes et tout au long de ces manifestations. On a bien vu la police française attaquer des journalistes, ne pas respecter le travail journalistique, etc. Donc, malheureusement, ces tendances-là, on les retrouve dans d'autres pays. Je peux vous reparler aussi de l'Hongrie, de la Pologne, etc., où là, on a des tendances beaucoup plus autoritaires. Et c'est très inquiétant. Il y a un raidissement dans l'espace public européen qui est lié, je pense, à mon sens, aux impasses, finalement, de l'hégémonie néolibérale, c'est-à-dire aux impasses du système actuel qui ne peut pas fournir des réponses aux problèmes très sérieux, par exemple, la crise climatique, les inégalités, etc. Et donc, ce raidissement aboutit à ce type de problème. Et je pense que il faut vraiment agir. Et il me semble que l'échelle européenne, pour le coup, est une bonne échelle parce que les réglementations qui proviennent de l'Union européenne, on a les exemples sur les plateformes numériques récemment, ne sont pas directement impliquées dans les enjeux politiques nationaux et donc peuvent prendre plus de hauteur et avoir une portée plus intéressante.
Frédéric Charion, le Conseil de l'Europe dénonce lui aussi, dans un rapport publié le 27 avril dernier, une érosion de la liberté de la presse en Europe. On connaît le cas de la Pologne, de la Hongrie, de la Russie, qui pratiquent depuis longtemps le rachat de médias privés par de grandes fortunes proches du pouvoir pour mieux contrôler ces médias. Mais on voit cette pratique se propager ailleurs, en Europe de l'Ouest. Nico Smirnaios nous en parlait à l'instant, notamment en France, où sur 13 chaînes d'infos généralistes, chaînes de télévision, 8 sont détenues par 5 milliardaires. Est-ce que ce n'est pas en train de poser des sérieux problèmes pour la pluralité des points de vue et l'information libre ?
Si, mais c'est malheureusement un problème qu'on connaît depuis longtemps. On sait quelles sont les menaces à la liberté de la presse.
Mais quelle solution alors ?
D'abord, on sait les menaces, ça peut venir de l'État, hein, c'est le cas de quelques pays d'Europe centrale et orientale. Ça peut venir effectivement de la concentration économique. Bon, on retrouve ce débat à propos de Bolloré aujourd'hui, mais enfin, il y a très longtemps, on l'avait à propos de Robert Hersan, enfin, il y en a eu d'autres, on l'a eu avec Berlusconi en Italie. On sait très bien que la concentration économique est une menace à la liberté de la presse. J'en ajouterais aussi une troisième, mais on l'a évoqué, c'est la violence de plus en plus forte du débat politique. Et d'ailleurs, on a de plus en plus une demande, peut-être, je crois, des auditeurs ou des opinions pour des chaînes engagées. On voit bien comment les chaînes qui défendent une ligne politique ont de plus en plus d'audience, et les chaînes qui se voulaient un peu plus neutres perdent de l'audience, comme si elles paraissaient ennuyeuses de plus en plus. On voit le même phénomène aux États-Unis, où même une chaîne comme CNN, qui faisait un peu figure de chaîne de référence, est devenue elle aussi très engagée, alors plutôt du côté du Parti démocrate, hein, très très anti-Trump, alors que Fox News et d'autres, c'est évidemment le contraire. Ça, c'est un ensemble d'éléments que tout le monde constate.
Et comment réguler ?
Alors, comment réguler ça ? D'abord, je pense qu'il y a une pédagogie à faire des opinions. Je pense qu'effectivement, le fait d'accepter davantage la complexité du débat est quelque chose que l'on doit inculquer. Il faut apprendre à accepter la contradiction. Et c'est pour ça, oui, je l'assume que je mets l'affaire de la cancel culture et la censure un peu sur le même plan. C'est qu'à partir du moment où on n'accepte plus la contradiction, à partir du moment où le réflexe n'est plus de dire « je ne suis pas d'accord avec cette personne, je souhaite donc débattre avec elle », mais au lieu de ça, on dit « je ne suis pas d'accord avec elle, donc je demande qu'on l'interdise », forcément, ça ne va pas s'arranger. Donc je crois qu'il faut, ça commence par une pédagogie. C'est très très long, malheureusement, parce que dans un cas, on peut légiférer, on peut prendre des mesures. Quand il s'agit de changer des évolutions sociales pour apaiser le débat, pour lutter contre la violence du débat, contre la violence politique, c'est plus compliqué. Je pense que sur le plan de la concentration économique, on peut trouver, même si ce n'est pas simple non plus, on doit pouvoir trouver des régulations que les Américains appelleraient antitrust. Il y a des solutions techniques. En revanche, pour inculquer aux opinions le fait qu'il faut accepter le débat, il faut accepter la contradiction, ça sera beaucoup plus long, mais il faut le faire.
Nico Smirnaios, pour conclure, que peut faire l'Europe ? Comment peut-elle s'armer face à ce phénomène, on disait, de concentration des médias ? Comment empêcher des informations ? Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose ?
Le problème des médias, malheureusement ou heureusement, ça reste à juger, aujourd'hui au sein de l'Union européenne, est considéré comme la régulation des médias est considérée comme une question nationale. Donc c'est une prérogative des États de réglementer, par exemple, la question de la concentration. Et on voit que là, il y a une impasse politique. Récemment, en France, il y a une mission sénatoriale sur le problème de la concentration des médias. Il y a eu des témoignages hyper intéressants. Tout le monde a bien compris qu'il y a un gros problème. Or, la montagne a couché d'une souris, il n'y a aucune mesure, notamment des protections des rédactions face aux actionnaires, qui a été proposée par le Sénat. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les politiques ont intérêt à s'allier avec les puissants des médias pour sauvegarder leurs intérêts. Donc ça, c'est une piste, et il faudrait peut-être creuser cette piste-là d'une réglementation européenne à l'échelle des médias traditionnels pour garantir des meilleures conditions d'exercice du métier journalistique dans tous les pays européens.
Carrefour de l'Europe se termine sur ces mots. Merci à nos invités, Frédéric Charion, professeur de sciences politiques et auteur d'un ouvrage qui vient de paraître chez Odile Jacob, « Guerre d'influence, les États à la conquête des esprits » et Nico Smirnaios, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Toulouse 3. Merci à vous deux. Ludivine Admado était à la réalisation de l'émission aujourd'hui. Carrefour de l'Europe vous donne rendez-vous dimanche prochain avec Frédéric Lebel qui parlera de l'élargissement de l'Europe et de ses enjeux avec l'arrivée bientôt de l'Ukraine en son sein.